17h41, c'est l'heure de la chronique des apatrides anonymes. Et je dois dire que je suis très contente parce qu'il y en a eu plusieurs dans les derniers mois, mais c'est ma première depuis le printemps. Alors, c'est comme un retour.
Ben, bienvenue à CKUT, bienvenue à En profondeur.
Merci, Simon.
Donc, bonjour tout le monde aussi. Plusieurs sujets aujourd'hui, comme d'habitude, parce que l'actualité est toujours bien remplie. Des sujets qui relèvent autant du fédéral que du provincial, vous allez voir ça. Ici, on a le temps à la fin, peut-être un petit débat sémantique qui pourrait être assez intéressant, un petit débat sur le vocabulaire qu'on utilise dans l'actualité en immigration. Premièrement, je vais encore vous parler de Jason Kenney. On pensait qu'elle allait disparaître, mais oui. Son héritage est tellement lourd. Mathieu a fait son bilan dans la dernière chronique des apatrides il y a 3 semaines. Bilan qui est extrêmement lourd, réforme du système d'immigration en profondeur. Il a radicalisé beaucoup le système d'immigration canadien. Jason Kenney n'est plus ministre de l'immigration, mais comme je disais, son héritage est tellement lourd qu'on a des nouvelles qui nous viennent encore aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rappelez quand le fédéral s'est retiré de la couverture des soins de santé pour les personnes en attente de statut et oui. Pour les personnes réfugiées. On apprend aujourd'hui, grâce à un document que la presse canadienne a obtenu, qu'il y avait d'autres scénarios qui étaient envisagés. C'est un document interne de travail qui faisait des recommandations au ministre, à savoir quelles décisions prendre pour économiser dans les soins de santé. Le document qui a été obtenu, on y évalue la possibilité de restreindre le statut de réfugié aux personnes qui coûteraient cher en soins de santé. On nomme des catégories de personnes, on nomme les aveugles, on nomme des personnes qui accuseraient des retards de développement. Et plus inquiétant encore, des personnes qui demandent le statut de réfugié qui auraient été victimes de traumatismes et de tortures. Donc, c'est un peu la nature même d'un statut de réfugié, c'est de fuir en général des contextes où nos vies sont en danger. Et le document explicite ça très clairement. Donc, dans le document rendu public, on met quand même le ministre en garde, je vais ouvrir les guillemets. Implanter des quotas pour les réfugiés à besoins particuliers pourrait être perçu comme un renversement de la tradition humanitaire du Canada. Eh bien, oui, je pense que c'est assez clair. Finalement, il y avait aussi un deuxième scénario qui était envisagé, qui était de faire des pressions, que le gouvernement canadien fasse des pressions auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de carrément faire modifier les définitions en cours et les critères en ce qui a trait aux réfugiés. Ce scénario-là n'a pas été envisagé, non plus le scénario de restreindre certaines catégories n'a pas été mis de l'avant. Ça aurait été probablement politiquement peut-être un peu trop lourd à porter. Donc le scénario qui avait été choisi, ça avait été carrément de couper la couverture des soins de santé aux personnes en attente de statut et aux personnes réfugiées. Est-ce que c'est toujours dans les plans du gouvernement de restreindre certaines catégories du statut de réfugié? Ce sera peut-être au nouveau ministre de l'Immigration, Chris Alexander, de répondre, mais en tout cas, moi, personnellement, je pense que le grand rouleau compresseur est passé dans le système d'immigration avec Jason Kenney, qui est vraiment un combattant, un allié numéro un de Stephen Harper. Je pense que c'est lui qui avait le travail de faire les réformes, de les mettre en place, de les définir, de faire voter les lois. Et Chris Alexander est plutôt un député d'arrière-ban, pas très important, je pense, au niveau du bureau du premier ministre. Je pense qu'il va plutôt s'occuper d'assurer le suivi des réformes que Jason Kenney a mises en place. Mais attention, par contre, là où Jason Kenney est rendu actuellement, je pense que c'est à l'emploi.
Oui, c'est ça.
Donc, le rouleau compresseur devrait passer par là aussi.
Oui.
Chris Alexander, on va souvent vous parler de lui, puisque c'est notre nouveau ministre canadien de l'immigration. Qui est-il exactement? Donc, il est plus jeune que Jason Kenney. Il est plus beau aussi, on peut dire ça. C'est un beau blond arien. Comme je disais, c'est un député plutôt d'arrière-ban qui a été assez discret, qui a toujours répété les cassettes rédigées par le bureau du premier ministre, qui n'a jamais dérogé à la ligne du parti. Dans les médias anglophones, on l'a vu davantage dans les derniers mois parce que c'est lui que le premier ministre a mandaté pour aller au front devant les médias pour défendre le gouvernement dans les scandales reliés au Sénat, donc les affaires Duffy, les affaires Wright. Il a eu l'air fou à plusieurs reprises, mais il s'en est tenu à son rôle, donc il a fait un bon travail. Ça lui a valu la promotion qu'il a eue récemment et a été nommé ministre de l'immigration du Canada. Donc, c'est le député de Ajax Pickering, ça c'est à l'est de Toronto, c'est un ancien diplomate. Il a été adjoint au sous-ministre des Affaires étrangères. premier ambassadeur du Canada à Kaboul en 2003, suite à la rupture diplomatique du Canada et de l'Afghanistan. Il s'est occupé principalement de gouvernance et de réforme de la police en Afghanistan. Il a reçu plein de distinctions, tu sais, le genre de prix que les puissants se remettent entre eux, tu sais, pour se flatter l'ego, des médailles. La plus niaiseuse que j'ai vue, il est apparu dans le palmarès des 40 Canadiens les plus performants de moins de 40 ans. Donc, je vous le souhaite, là, en profondeur. Je pense qu'on est assez performants, on a moins de 40 ans. Donc, ça pourrait nous arriver. Autre nouvelle, un dossier qui relève aussi du fédéral, mais qui devrait plutôt concerner la sécurité publique et non l'immigration. Le sujet en question, c'est Omar Khadr. On a eu quelques nouvelles récemment. Le nouveau ministre de la Sécurité publique, c'est le très flamboyant Stephen Blaney, donc l'un des rares députés conservateurs québécois, qui a pris la relève après la démission de Vic Taze. Khadr, on le sait, Omar Khadr est au Canada, est dans une prison canadienne depuis son transfert de Guantanamo depuis un an. Donc, il a séjourné, excusez, ça a l'air d'une auberge quand je dis ça, mais en tout cas, il était incarcéré à Millhaven, à Kingston. Ensuite, depuis quelques mois, il est maintenant dans une prison près d'Edmonton. Et donc, tout ça, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une lettre, encore un document qui a été rendu public du bureau de l'enquêteur correctionnel, qui demande aux autorités carcérales de revoir la détention à sécurité maximale d'Omar Khadr, puisque Omar Khadr ne correspond pas aux critères qui pourraient justifier un tel niveau de sécurité. D'après le document, il n'y a aucune preuve qui démontre que le comportement de Khadr nécessite la sécurité maximum. Tous les rapports psychologiques successifs ont tous démontré qu'il interagit très bien avec les autres et qu'il n'a aucune attitude violente ou extrémiste. Et même les États-Unis ne l'avaient pas classé à sécurité maximale. Donc, ça semble être une décision purement politique. On ne sait pas d'où ça vient, par contre.
Mais on sait que le gouvernement Harper, pour plusieurs années, s'est lutté pour que Khadr reste à Guantanamo. Il ne voulait pas lui ramener au Canada, c'est vrai?
Ben oui, c'est vrai. En fait, il y avait même une obstination à ne pas demander son rapatriement, alors que tous les pays occidentaux rapatriaient les prisonniers issus de leur pays qui étaient toujours à Guantanamo. Omar Khadr a été le dernier à être rapatrié, qui n'était pas américain. Donc, ça, c'est une obstination qu'on n'a jamais vraiment compris non plus, puisque même les États-Unis, à un certain moment, demandaient à ce que les pays rapatrient leurs prisonniers. Ouais.
Alors, ça semble que ça continue un peu avec cette décision de
Bien, c'est un cas que je crois que le gouvernement veut citer en exemple, montrer la dureté, montrer son intransigeance face aux présumés terroristes. Il y a probablement beaucoup de budgets de sécurité qui sont en cause, mais d'un point de vue purement diplomatique, je le comprends pas non plus. Et de toute façon, les ministres à l'époque, c'était Lawrence Cannon. Il était pas capable d'expliquer non plus son comportement.
D'accord.
Ben, il bafouillait. En général, c'était pas très clair. Il était vraiment pressé de questions par beaucoup de groupes de pression, par les médias et... il disait « Nous, les États-Unis ne demandent pas vraiment à ce qu'ils soient rapatriés », alors que c'était faux. Enfin, il est toujours dans une cellule, dans une aile à sécurité maximum à Edmonton, et il semble que ce ne soit pas justifié d'après les instances concernées et compétentes. Quelques nouvelles plus locales. Je vais me faire un peu, pour les deux prochaines nouvelles, le relais de Solidarité sans frontières, qui a quand même été très active tout l'été. Puisque même si les parlements prennent des vacances, l'actualité continue. Une campagne de Solidarité sans frontières, Cité sans frontières, qui s'appelle maintenant la santé pour tous et toutes. La revendication principale actuellement, c'est d'interdire aux agents des services frontaliers l'accès aux institutions médicales, donc l'accès aux hôpitaux principalement. C'est pas innocent, ça sort de quelque chose. C'est qu'il y a eu quand même des événements dernièrement. Il y en a eu un l'année passée à Royal Vic, donc tout près d'ici, à l'hôpital Royal Victoria. Des agents frontaliers qui sont entrés dans la salle d'urgence malgré l'opposition du personnel médical pour interpeller des personnes. Plus récemment, en juillet, à l'hôpital général, trois agents ont tenté d'arrêter une femme de 57 ans qui venait de subir un infarctus du myocarde. Les agents des services frontaliers sont même entrés dans la section de monitorage de la salle d'urgence. Ça, c'est deux cas qui ont été bien documentés, mais il y en a eu plusieurs autres qui ont été évoqués. Donc, c'est inacceptable. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une campagne actuellement. Plusieurs groupes et organismes en santé appuient déjà la déclaration de Solidarité sans frontières. Maintenant, il faudrait passer à une étape suivante, donc demander aux institutions et syndicats en santé à l'appuyer et à la mettre en pratique. Ça, c'est dans un souci, évidemment, d'accessibilité vraiment universelle des soins de santé. Puis, entre vous et moi, je pense pas que les agents des services frontaliers ont leur place dans un hôpital.
Non.
C'est vraiment une question de dignité. Là, il me semble que c'est la base. Enfin, donc, si vous connaissez des gens qui travaillent en santé, je vous invite à leur faire parvenir le lien. Simplement, le site de Solidarité sans frontières, ils vont facilement trouver la déclaration. Et peut-être que s'ils ont des assemblées syndicales ou même s'ils ont des entrées à la direction de leur établissement, ce serait bien de faire évoluer ce dossier-là. Je pense que c'est très important. Toujours Solidarité sans frontières, campagne qui dure quand même depuis pas mal plus longtemps pour l'éducation pour tous et toutes. La campagne qui s'appelle Éducation sans frontières. Le contexte, on le connaît quand même déjà, c'est que pour les enfants des familles dont les parents sont sans papier ou sans statut, on ne peut pas obtenir l'éducation primaire ou secondaire de manière gratuite et accessible. Dans plusieurs pays, c'est quand même possible, dans les lieux qu'on dit sanctuaires, ouais, qui sont soit des États, des provinces ou des villes, c'est possible de le faire. Ici, il y avait eu des promesses de la ministre comme quoi ça sera réglé avant la fin de l'été. Les commissions scolaires se disaient ouvertes et flexibles, mais malgré tout ça, ce n'est toujours pas possible. À preuve, il y a une campagne de Solidarité sans frontières d'accompagnement de personnes de familles sans statut pour aller inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Donc, il y a deux cas qui ont été... il y a deux accompagnements qui ont été effectués, un dans une école de la commission scolaire de Montréal et une à Longueuil, dans une école de la commission scolaire Marie-Victorin. Je vais ouvrir les guillemets, je vais citer un membre du collectif. « Lors de notre visite, les bureaucrates du système éducatif ont été incapables de nous donner des réponses claires pour finalement refuser l'inscription des enfants. Nous avions pourtant, tel que l'avait recommandé la ministre, les certificats de naissance et les factures prouvant leur résidence sur le territoire des écoles. » dossier toujours pas réglé. Le collectif y va de quatre dénonciations principales. Donc, premièrement, le non-accès à l'école malgré les promesses de la ministre. Les frais injustifiés qui sont toujours demandés aux familles. La non-garantie de l'obtention du code permanent et l'absence de position claire sur la confidentialité des familles. Sur le site de Solidarité sans frontières pour avoir plus de détails. Par contre, là, la rentrée dans toutes les écoles primaires et secondaires a commencé depuis déjà 3 semaines. Donc, le temps commence vraiment à presser parce que je ne sais pas jusqu'à quel point on peut intégrer un enfant dans une école primaire en cours d'année. Donc, après 3 semaines, il semble pas que ça va se régler bientôt. Ce serait un dossier qu'il faudrait, qui devrait avancer. Donc, je ne sais pas comment on peut talonner la ministre. J'imagine que les différentes associations vont nous envoyer des communiqués pour nous dire quoi faire dans les prochaines semaines. Donc, dossier à suivre. Il me reste quelques temps. C'est le fun d'avoir un peu plus de temps que d'habitude. Donc, je vous propose pas un débat, mais peut-être une mise au point sur un terme qu'on utilise souvent, qu'on entend souvent dans le domaine de l'immigration. C'est le terme « illégal », non pas pour désigner des actions ou des choses qui est applicable, mais pour désigner des personnes. Mm-hmm. Donc, des personnes illégales, ça me semble un peu étrange. Comment une personne peut être illégale? Je veux dire, une personne vit, une personne est quelque part. Harry, je crois comprendre que tu es dans le domaine du droit. Donc, je ne crois pas qu'une personne puisse être illégale. Pourtant, on entend ce terme-là très souvent. Je ne sais pas si toi, dans les domaines dans lesquels tu évolues, tu l'entends encore aujourd'hui?
Non, de manière juridique, je pense pas que c'est vraiment utilisé. C'est vraiment... De la manière dont je le comprends, c'est vraiment un terme qui va être utilisé lorsque les gens parlent à travers le prisme d'une certaine idéologie.
C'est pas
un terme qui a des connotations juridiques plus qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est un terme qui est assez amusant si on considère l'histoire coloniale de l'Amérique.
Ben oui.
Donc, dans le fond, tout le monde est illégal jusqu'à temps qu'un certain rapport de force s'installe. Puis à ce moment-là, il y a d'autres illégaux qui sont identifiés.
Merci de l'éclaircissement. Fait qu'il faut faire attention quand même aux mots qu'on utilise, mais c'est un terme que moi, en tout cas dans les médias, chez certains politiciens qui défendent une certaine idéologie, comme tu l'as dit, c'est encore beaucoup utilisé. D'autres termes qui sont assez courants, personnes illégales, immigrants, illégaux, personnes sans statut, personnes sans papier. Ça, moi, c'est des termes que j'utilise encore parce que j'ai peut-être pas évolué vers un vocabulaire plus neutre ou plus plus près de la réalité. Donc, mea culpa, et je vais essayer de faire un effort là-dessus. D'autres termes qu'on entend, personnes non autorisées ou personnes non documentées. Je dois préciser, pour l'instant, c'est un débat qui est surtout anglophone. Mm-hmm. En français, on n'a pas encore entendu beaucoup de beaucoup de choses là-dessus. C'est un débat qui est évidemment émotif, mais qui est polarisant, et la façon de désigner telle personne peut évidemment, comme tu disais tantôt, orienter le débat, former des opinions, former même l'opinion publique, former des attitudes. Bref, notre vocabulaire a des conséquences sociales quand même. Le terme « illegal immigrants » en anglais donc, a été banni de l'Associated Press. Elle ne l'utilise plus depuis plusieurs mois. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le bannit aussi depuis assez longtemps. Évidemment, la plupart des associations militantes pour les droits des personnes migrantes n'utilisent pas non plus ce terme-là. Le nouveau terme qu'on suggère d'utiliser et qui est beaucoup plus près de la réalité, c'est en anglais, c'est « illegalized person », donc qui reflèterait mieux la réalité. Ça met plus l'accent sur le système ou le processus dans lequel une personne est prise, si on veut, plus que sur la personne elle-même. Donc, les personnes sont, en utilisant ce terme-là, seraient davantage vues comme, non pas intrinsèquement illégales, mais comme prises dans l'illégalité de nos politiques qui sont restrictives. Donc, je pense que c'est beaucoup plus fidèle à la réalité. Ça met en relief les défis difficiles auxquels ces personnes-là font face. Donc, est-ce que le changement va se faire? Donc, en anglais, il y a une proposition, « illegalized person », qui me semble assez appropriée. En français, comme je disais, moi, j'utilise encore « sans papier », « sans statut », parce qu'on n'a pas eu ce débat-là encore. Il n'y a pas de nouveau terme qui a été proposé. Jason Kenney, encore une fois, pourquoi ne pas revenir à lui? Lui utilisait abondamment le terme « illegal immigrants » mm-hmm. parce que il défend une idéologie raciste. Il allait même plus loin, il utilisait souvent les termes « fraudeur », « délinquant », en anglais « trespassers », je ne sais pas c'est quoi l'équivalent français. Même Obama, tu sais, utilise maintenant... En fait, lui, il est rendu à « undocumented ». Donc, probablement que ce n'est pas parfait non plus, parce que ça démontrerait « undocumented », donc sans document, qu'il y aurait eu une erreur... bureaucratique quelque part ou qu'il y a une absence de documents. Enfin bref, c'est pas tout à fait exact. Donc je lance le défi en français, s'il y en a qui veulent nous contacter, peut-être nous suggérer un nouveau terme. Personne illégalisée, ça sonne pas très bien. Donc,
Mais en même temps, c'est un clin d'œil à criminel versus criminalisé. Donc il y a une certaine relation entre
oui,
les deux
oui,
termes.
Oui, puis dans beaucoup de domaines, on a modifié des mots aussi pour mieux refléter la situation. Tu sais. Dans le cas des... la féminisation des mots, utiliser au lieu de chairman, utiliser chairperson, par exemple. Donc, c'est une question d'évolution. C'est une question, notre langage est très important. Il en exprime autant que le contenu.
Merci beaucoup, Simon.
Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.
C'est ce qui conclut notre édition d'En profondeur.